Voilà, nous continuons notre deuxième volet du mystère pascal avec le volet de la résurrection. Donc, confesser Jésus-Christ ressuscité. Et donc, il est question de la confession de foi en ce Christ qui est ressuscité le troisième jour. Donc, la résurrection, vous l'avez compris, ne peut pas être isolée de la mort de Jésus, que l'événement Jésus-Christ, c'est à la fois sa vie, mais c'est sa mort et sa résurrection. Et il ne convient pas d'isoler la crucifixion de la résurrection. Parce qu'elles sont, pour ainsi dire, les deux faces d'un même mystère. Le mystère de la mort du Fils de Dieu descendant aux enfers et le mystère du Fils de Dieu ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Alors, quel serait le risque, par exemple, si on isolait la crucifixion, la mort de la résurrection? On l'a vu la fois dernière, on l'a un peu amorcé avec le tableau de Zurbaran, et vous vous souvenez, Zurbaran avait incliné le visage du Christ en croix de manière à ce que l'on ne voit pas l'expression de sa mort, et en tout cas l'expression de la souffrance. Eh bien, si on était uniquement sur le versant de la mort et de la crucifixion, en ignorant ou en reléguant la résurrection, le risque serait d'avoir une vision doloriste, une vision où la souffrance viendrait sauver l'homme, où ce serait que la croix qui sauverait l'homme. Donc vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait faux de penser que le Christ en croix sauve l'homme, mais il le sauve en raison de la réponse du Père qui est la résurrection. Encore une fois, la souffrance et la mort ne sauvent personne. Personne n'est sauvé par le fait de mourir. À l'inverse, si on isolait la résurrection en ignorant la croix ou en minimisant la souffrance que Jésus de Nazareth, Jésus le Fils de Dieu, a vécue sur la croix, eh bien ce serait une manière, on va dire, hérétique de gommer la souffrance de Jésus en se disant, ben finalement, c'est le Fils de Dieu, il n'a peut-être pas souffert vraiment comme un homme et que peut-être il aurait même fait semblant de mourir. Alors ça, vous voyez, les deux versants ne se tiennent pas, ni l'un ni l'autre. On doit réunir à la fois la souffrance de Jésus à la croix et la réponse de cette souffrance, la réponse du Père étant la résurrection. Parce que si on gommait la souffrance de Jésus, la souffrance réelle du Fils de Dieu à la croix, alors on serait comme une hérésie, comme les hérétiques du 2e, 3e siècle, à savoir ceux que l'on appelait les docètes, c'était ceux qui pensaient que Jésus avait finalement fait semblant de souffrir, qu'il n'était pas vraiment le Fils de Dieu, et que où le Fils de Dieu de toute façon ne peut pas souffrir, il ne peut pas mourir, donc il a fait semblant de mourir et semblant de souffrir. Donc ça, c'est un mouvement qui naît au 2e, 3e siècle, que l'on appelle le docétisme. Et donc le docétisme, ça vient du grec dokeo, qui veut dire faire semblant. D'où vient le nom de docétisme. En fait, on doit vraiment tenir l'unité entre la mort et la résurrection, parce que l'on doit tenir l'unité de la double nature, nature humaine et nature divine du Fils. Si l'on ne tient pas les deux natures, alors d'un côté, si on tient que la nature divine, bah forcément, s'il est divin, il n'a pas pu souffrir. Et puis si on tient que la nature humaine, eh ben, il n'a fait que souffrir, et à ce moment-là, la résurrection devient tout à fait accessoire, voire accidentelle. Donc ça, c'est pas possible. On doit vraiment tenir que la mort et la souffrance de Jésus lui font vivre l'extrême de la souffrance humaine, parce qu'il ne s'est pas dérobé devant ses souffrances, mais en même temps, cet extrême de la souffrance humaine va lui faire vivre, par la résurrection, l'extrême de l'amour de Dieu qui ressuscite le Fils. Et donc, cette résurrection font partie d'un seul et même mouvement qui manifeste l'esprit même et l'action même de l'Esprit Saint mis en œuvre par le Père pour le Fils en vue des hommes. Voilà, l'Esprit agit pour le Fils mais en vue des hommes. Donc notre premier point, c'est le grand 1, la dimension trinitaire de la résurrection. Donc dans l'acte de résurrection, on dit que le Père ressuscite le Fils par la puissance de l'Esprit. Donc la filiation du Père et du Fils est une relation trinitaire, puisque l'action de l'Esprit en faveur du Fils est une action du Père. Donc nous avons là la Trinité qui opère en faveur du Fils par l'action du Père et de l'Esprit Saint. Donc cette filiation et cette Trinité, elle joue en faveur de la résurrection. Elle dit, elle est inscrite dans l'acte même de la résurrection. La résurrection, pour le dire autrement, la résurrection naît d'une action trinitaire. Parce que l'Esprit, dans sa puissance, est mis en action pour la résurrection du Fils. Donc si on voulait décomposer, on dirait que le Père donne le Fils et le Fils se donne lui-même et Dieu se donne lui-même dans le Fils, que le Fils donne sa vie en se livrant lui-même, que le Fils rend l'Esprit au Père, souvenez-vous, à la manière dont il meurt, il remet son Esprit dans les mains du Père avant de mourir, et le Père va ressusciter le Fils par la puissance de l'Esprit. Il y a donc une relation trinitaire, un mouvement, on pourrait même parler de circularité, entre les trois personnes de la Trinité, à partir de laquelle se produit, à l'initiative du Père pour le Fils, eh bien, se produit une action qui est celle de l'Esprit. Et donc, cette action de l'Esprit, qui est de ressusciter le Fils, va opérer un passage d'une existence qui a laissé la mort derrière elle. Parce qu'il faut bien que la mort et la résurrection de Jésus et la résurrection de Jésus a une action sur la mort humaine elle-même. Donc ce passage d'une existence qui a laissé la mort derrière elle, une fois pour toutes, nous dit Romains, dans Romains 6,10, c'est ce que l'on peut dire, une fois pour toutes, la mort est demeurée derrière. Toutefois, dans ce passage de la mort à la vie ressuscitée, c'est-à-dire dans ce passage d'une forme d'existence à une autre, eh bien Jésus ne cesse pas d'être ce qu'il était et d'être ce qu'il est. C'est-à-dire, il demeure ce qu'il est et ce qu'il était depuis le début, depuis le commencement. La mort de Jésus sur la croix ne va pas amoindrir ce qu'il est en tant que Fils de Dieu. Et la résurrection vient, elle, anéantir peut-être même la compréhension que les hommes avaient de la mort avant la résurrection de Jésus. Donc en définitive, le mystère de cette filiation divine et de cette communication dans l'esprit, eh bien, nous met face à un mystère que l'on peut qualifier d'unique, voilà, mais qui va révéler le mystère d'une vie trinitaire et d'une relation trinitaire. Donc les événements de la croix, de la résurrection, de l'ascension du Christ ressuscité, mais aussi de la Pentecôte, bien sûr, eh bien on peut dire que ce sont des moments distincts de la révélation, mais qui sont toutefois liés, qui forment une unité et qui font partie d'un seul et même événement de la manifestation de Dieu en son Fils. Voyez, il n'y a pas de séparation. Il y a des moments dans la révélation, mais ces moments forment une unité. Il n'y a pas de séparation. Nous sommes toujours dans la continuité de l'événement de la révélation de Dieu, à des moments différents de l'histoire, par des actions qui sont différentes. Et donc, l'événement de la manifestation en la résurrection, on va dire, c'est un événement transcendant. Ce n'est pas un événement du monde. C'est un événement qui vient d'ailleurs. C'est un événement transcendant. C'est un événement qui dépasse le monde. Et même qui dépasse la compréhension que nous pouvons avoir de ce que peut être une vie. Je ne dis pas une vie après la mort, mais même une vie en Dieu. Donc notre grand 2, la résurrection, un événement transcendant dans le temps des hommes. Donc dire que la résurrection est un événement transcendant, cela signifie que c'est un événement qui n'est pas du monde, qui n'appartient pas au monde, qui vient d'ailleurs. Donc le monde ne peut pas comprendre la teneur de cet événement. Cela signifie également que cet événement existe sans le recours des hommes. Ce n'est pas de la volonté des hommes, ce n'est pas de leur désir, ce n'est même pas de leur capacité. Cela dépasse leur capacité. Donc, la résurrection, c'est un acte transcendant parce que c'est l'acte de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui agit en faveur du Fils par la résurrection. Je ne sais pas s'il est d'accord. C'est l'Esprit qui nous appelle. Ce n'est pas grave. C'est donc parce que cet événement vient de Dieu qu'on peut dire qu'il est transcendant. Donc dans la chronologie des faits de la Passion, qui nous amène au matin de Pâques, eh bien, il y a le tombeau vide. Mais le tombeau vide, à lui seul, ne peut pas être, et on ne doit pas le considérer comme une preuve de la résurrection. C'est juste un fait que l'on constate au matin de Pâques. La pierre est roulée et le tombeau est vide. Alors, ce n'est pas une preuve de la résurrection, mais en revanche, le fait que le tombeau soit vide et que la pierre soit roulée, ça nous indique que quelque chose s'est produit, que quelque chose s'est passé. Et donc, s'il n'est pas en lui-même la preuve de la résurrection, il en est le signe. Il est le signe que quelque chose s'est passé à cet endroit-là et que quelque chose s'est produit. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir que l'apparition de Jésus, donc du Jésus ressuscité au matin de Pâques, eh bien fait partie, donc les apparitions font partie des signes tangibles et sensibles qui permettent aux témoins de faire les premiers, de faire l'expérience de la rencontre avec le ressuscité. Donc, la pierre est roulée, le tombeau est vide. Ce n'est pas une preuve, mais ça dit bien que quelque chose s'est produit. Ensuite, Jésus apparaît, souvenez-vous, enfin, on ne le reconnaît pas tout de suite. Il apparaît, mais ses apparitions ne sont pas encore, pour ainsi dire, la preuve tant que Jésus ne se révèle pas comme le ressuscité, mais sont des signes tangibles, des signes sensibles. Donc l'expérience des témoins qui rencontrent pour la première fois Jésus ressuscité mais qui ne le reconnaissent pas, ben, font pour leur vie eux-mêmes une expérience fondatrice. C'est une expérience absolument inédite, bouleversante. C'est une expérience bouleversante pour eux-mêmes et puis pour l'Église, parce que c'est à partir de leur témoignage et de l'envoi de l'Esprit à la Pentecôte que l'Église pourra naître. Mais toutefois, concernant ce signe tangible et visible, il n'en demeure pas moins qu'il est constatable et qu'à partir de ce signe sensible, on peut constater que quelque chose s'est produit, que le tombeau est vide et que le corps de Jésus a disparu. Donc la question, c'est la question d'ailleurs que Marie-Madeleine pose, le corps a disparu, est-ce que c'est toi qui as emmené le corps ? Donc c'est un fait que l'on constate, c'est le signe que quelque chose est arrivé, et ce signe va devenir un événement. Va devenir un événement dont l'origine est transcendante. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire que la résurrection, à partir du tombeau vide, est un fait, parce que l'on constate que la pierre est roulée, que le tombeau est vide, donc c'est un constat, donc c'est effectivement un fait, mais que ce fait, en raison même du ressuscité qui va se révéler, souvenez-vous, il appelle Marie par son prénom, et à l'appel de son prénom, elle le reconnaît, elle lui dit Rabboni, donc le ressuscité est reconnu, et bien ce fait, ce constat que le corps a disparu, par la présence du ressuscité, eh bien, ce fait devient un événement. On le voit bien dans l'histoire. Dans l'histoire, les événements se produisent toujours à partir de faits qui surgissent, mais les faits ne sont pas toujours des événements. Vous voyez bien, parce qu'un fait peut être anonyme, il peut concerner qu'une personne ou qu'un petit groupe de personnes et ne pas concerner l'ensemble de l'humanité. Alors que le fait de la crucifixion et de la résurrection du Christ, eh bien, fait que cela devient un événement, d'abord pour les témoins parce que ça bouleverse leur vie, et puis pour nous aujourd'hui qui croyons et qui confessons que Jésus-Christ est mort et ressuscité, que c'est l'expression de notre foi et de notre credo. Et c'est un événement pour notre vie. Ceux qui ne croyaient pas en Dieu avant, qui n'étaient pas baptisés, qui sont baptisés plus tard, il y a un avant et un après. Donc il y a bien cet événement-là, il a bouleversé de manière inédite le courant de la vie de la personne qui s'est convertie ou de nous-mêmes qui découvrons et redécouvrons à chaque moment de notre vie, à chaque étape de notre vie, eh bien, où notre questionnement nous fait découvrir eh bien, ce qu'est en réalité la résurrection, ce qu'est la mort, ce qu'est... voilà. Donc voilà un peu ce qui va lier, dans le sens de lier, le fait et l'événement. Et donc le tombeau vide est un signe qui va jouer en faveur de l'événement. Et il va jouer aussi en faveur de l'apparition de Jésus. L'espace ne peut pas rester vacant, l'espace ne peut pas rester béant, vous voyez bien. C'est pourquoi on peut dire que la mort de Jésus est un fait, mais par sa résurrection, il devient un événement. Et c'est un événement historique qui n'a pas de précédent. Alors, les apôtres de Jésus étant juifs avaient bien en tête des récits de résurrection, mais c'était des résurrections, on a bien ça, le fils de la veuve de Sarepta, ou même dans Ézéchiel, on a une résurrection collective des eaux, des déchets, voilà. Il y a même la résurrection de Lazare, mais la résurrection de Lazare n'a rien à voir avec la résurrection de Jésus. Lazare, on le reconnaît, il reprend le cours de sa vie comme si de rien n'était. En a-t-il le souvenir de sa mort? On n'en sait pas, on ne sait pas. Alors que Jésus, on ne le reconnaît pas. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose aussi pour lui. C'est ça. Il s'est passé quelque chose aussi pour lui. Il y a eu une action de la part du Père, par la puissance de l'Esprit, qui a eu un effet sur Jésus lui-même. Parce que Jésus n'est pas reconnu. On le prend pour le jardinier. Ou pour un ange. Donc dans la résurrection, on pourrait dire qu'il y a un signe objectif et tangible. C'est le tombeau vide, ça vous l'avez compris. Et puis il y a des signes sensibles. C'est l'apparition. Mais il n'y a pas que l'apparition. Il y a aussi la disparition de Jésus. Dans le sens où, dans les 40 jours qui suivent sa résurrection, Jésus apparaît au milieu de ses disciples, puis il disparaît. Donc il y a un mouvement d'aller et de retour de la part de Jésus, du ressuscité. Et Jésus va mettre en œuvre sa liberté de ressusciter, sa liberté qui lui est propre, de se montrer ou de ne pas se montrer. Ça, c'est une liberté qui lui appartient en propre. Quand les apôtres sont enfermés au Cénacle, il apparaît au milieu d'eux. Puis, il disparaît. Il apparaît ainsi à des moments que lui-même a choisis. Donc, la relecture, depuis la mort de Jésus jusqu'à sa reconnaissance lors du repas, on le voit à Emmaüs, il est reconnu au moment où il rompt le pain, eh bien c'est une relecture qui va interpréter tout l'événement. C'est-à-dire que les disciples ne vont pas simplement essayer de comprendre la mort et la résurrection, mais d'un seul coup, souvenez-vous, les pèlerins disent « Mais nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants lorsqu'ils nous ouvraient les Écritures ?» C'est à la fois toute la vie de Jésus qui est revue ainsi et relue. Parce que pour comprendre la mort et la résurrection de Jésus, il faut comprendre ce qu'il a été dans sa vie de Jésus de Nazareth, ce qu'il a été comme homme au milieu de ses disciples, de ses apôtres, et comment on a compris qu'il était, ou qu'ils ont compris qu'il était le Fils de Dieu, vraiment à la résurrection, presque quand il est apparu à Simon-Pierre, au retour des pèlerins d'Emmaüs, quand ils reviennent voir le groupe à Jérusalem, ils lui disent « Oui, c'est vrai, il est apparu à Simon. » Vous voyez, la relecture, elle n'est pas uniquement sur le segment mort-résurrection, elle va intégrer tout le segment de la vie de Jésus, c'est-à-dire tout ce qu'il a été. Et tout ce qu'il a été est révélé d'un coup, et ils comprennent d'un seul coup, oui, c'était vraiment le Fils de Dieu et il est vraiment ressuscité. Donc en résumé, on pourrait dire que la résurrection est un événement transcendant parce qu'elle s'origine en Dieu lui-même et elle se produit dans le monde. Alors voilà ce que Balthazar dit dans La Gloire et la Croix, dans le premier volume de La Gloire et la Croix qui s'appelle Les aspects esthétiques de la révélation, et c'est donc apparition. Il dit « Dieu se présente lui-même et s'explicite lui-même, nous dit Balthazar, et ce faisant, il insiste sur le fait qu'il ne peut s'agir d'un événement symbolique, mais bien de la réalité de Dieu le Père incarnant le Fils et le ressuscitant au matin de Pâques. l'événement de la résurrection manifeste en elle-même, par le ressuscité, Dieu lui-même. Vous voyez, Balthazar nous dit, on n'est pas du tout dans la dimension symbolique. On n'est pas dans la représentation ou dans l'image de la résurrection. Il dit, la résurrection, l'événement de la résurrection, manifeste en elle-même, mais par le ressuscité, Dieu lui-même. Donc on est là aussi dans une manifestation de Dieu. Dieu se manifeste, toujours par son Fils, mais pas son Fils ressuscité. Ça va ? Alors, nous arrivons à notre point 1.1, justement la résurrection au matin de Pâques. On va essayer de déployer un petit peu les choses. 1.1. Ah, je ne sais pas. Ah bon ? Je vous fais confiance. Moi, j'ai mis 1.1. Donc... Oui, c'est ça. 2.1. Bravo. 2.2. Donc, je reprends sur le tombeau vide. Sur le tombeau vide, juste pour dire que si ce n'est pas une preuve en soi, en revanche, il faut plutôt aller du côté des témoins oculaires. Voilà, des témoins oculaires. C'est-à-dire aller vers ceux qui ont été mis en présence du ressuscité. Parce que ces témoins oculaires... Alors quand je dis témoins oculaires, bien sûr, ils n'ont pas été témoins de la résurrection en elle-même. Mais en tout cas, on peut les appeler ainsi, ils ont fait l'expérience d'une rencontre inédite, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu auparavant. Et de fait, celui qu'ils croyaient être mort se trouve être devant eux, 3 jours après la crucifixion. Non seulement il est présent, mais il est vivant. Donc le mystère est entier. Donc voyons ce qu'il est dit des témoins au tombeau dans les récits évangéliques. Donc moi j'ai 1-2-1, les témoins au tombeau.
Voilà, 2-2-1.
Bon, alors vous, voilà, voilà. Voilà, c'est pas grave. Donc les premiers témoins sont les femmes. Leur place parmi les témoins, elle est importante et en même temps elle est paradoxale. Parce qu'elle est paradoxale. Non, d'abord ce sont... Donc les premiers témoins sont les femmes. Et comme je vous le disais, leur place est paradoxale et en même temps, elle est primordiale et fondamentale. Elle est primordiale et fondamentale et en même temps, elle est mineure. Et vous allez voir pourquoi elle est mineure. D'abord, elle est primordiale parce que les femmes sont celles qui ont suivi Jésus jusqu'au soir de son arrestation, de sa crucifixion. Elles étaient là au pied de la croix. Et elles étaient là aussi au moment où Jésus a été enseveli dans le tombeau. Elles ont été aussi les premières à avoir vu que la pierre avait été roulée. Et elles sont les premières à avoir rencontré Jésus ressuscité. Même s'il n'a pas été reconnu au départ. Et elle est primordiale, leur place est primordiale aussi parce que c'est elles qui ont annoncé la résurrection. Elles ont annoncé, elles sont allées voir les apôtres pour leur dire « Voilà ce que nous avons vu et voilà ce qu'on nous a dit de dire. » Alors, voyez bien, leur place est mineure parce que leur témoignage n'a pas été reçu comme le témoignage des apôtres, pour une simple raison, c'est que selon la loi juive, eh bien, les femmes ne sont pas considérées comme étant capables de témoigner. Le témoignage d'une femme, dans ce contexte-là de l'époque, les femmes et les enfants n'avaient aucun statut juridique, aucun statut social. Donc, une femme ne pouvait pas témoigner. leur témoignage n'avait pas de consistance, n'avait pas de véracité. Et donc, leur témoignage ne pouvait pas être reçu au même titre que celui des apôtres. Pourtant, c'est elles, voilà, c'est elles qui ont été présentes, elles ont vu, elles ont parlé. Et leur parole, on peut dire qu'elle a valeur de témoignage et qu'elle a valeur d'annonce. Alors, bon, vous l'avez compris, il n'est pas question de chercher de mettre les femmes au-dessus des hommes ou vice-versa. Ça n'a pas d'intérêt. Il ne s'agit pas de prioriser la place des femmes par rapport à celle des hommes au moment de la Passion, mais plutôt de voir que chaque disciple et chaque témoin de la résurrection a une mission qui lui est particulière. Et il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, mais que chaque mission, elle a une importance. Les femmes, elles sont allées annoncer que ce qu'elles avaient vu ou pas vu d'ailleurs, que le tombeau était vide. Ça veut dire qu'il y a, on pourrait pointer l'importance d'une diversification des témoins. Il y a plusieurs témoins, les femmes, les pèlerins d'Emmaüs, Pierre à qui Jésus est apparu. En fait, tous ceux qui ont une place reconnus à côté de Jésus, sont capables de témoigner d'une partie de cet événement. Voyez ? Cela veut dire que la vérité de l'événement, elle se constitue avec chaque élément de chaque groupe. Et chaque élément de chaque groupe, ça fait l'unité de la vérité. Les femmes voient le tombeau vide, le jardinier, où l'ange allait annoncer, voilà. Ensuite, Pierre et Jean qui courent au tombeau, qui constatent, Jean qui dit, il n'entre pas, mais il croit, il voit et il croit. Voyez, tout cela fait les pèlerins d'Emmaüs qui reconnaissent Jésus à la fraction du pain. Pierre à qui Jésus se montre. Eh bien, tout cela construit la vérité de l'événement. Et donc, la vérité du témoignage. Et donc on voit bien qu'il y a ainsi des paliers, des degrés de reconnaissance de la résurrection. Et finalement chaque groupe, le groupe des femmes, le groupe des pèlerins, le groupe des disciples, des apôtres, chaque groupe est en capacité de dire et de témoigner de quelque chose de la résurrection. Et donc l'enjeu pour eux, et l'enjeu pour les femmes, c'est qu'elles ont parlé, justement. Elles ne sont pas rentrées chez elles, elles ont parlé. Elles sont retournées voir les apôtres, elles ont parlé. Et c'est donc ça qui leur confère une place particulière. Cette place primordiale, première, et en même temps mineure. Mais vous voyez bien, je ne dis pas secondaire. Je ne dis pas secondaire, mais je dis mineure. Parce que la fondation de l'Église, elle repose sur les apôtres et pas sur les femmes. Donc les femmes, elles ont assuré la mission qui était la leur, à savoir d'annoncer que le Christ était ressuscité. C'est pas rien quand même. Jésus vient renverser la position que les femmes avaient dans le droit juif, eh bien, en leur donnant cette fonction et cette mission d'aller annoncer, les met en valeur et leur donne une visibilité, y compris dans le groupe des apôtres. Et ça va être important pour les premières communautés chrétiennes. Les premières communautés chrétiennes, ce ne sera pas une communauté faite d'hommes, ce sera des femmes et des hommes. Alors, la place des femmes, elle est importante aussi dans la figure féminine de l'Église, particulièrement chez Jean, qui est assez présente. Par exemple, dans l'Apocalypse, eh bien, l'Église, elle est vue en tant que femme qui engendre le Messie. Donc, on est bien dans une symbolique, dans une représentation. Mais parlons-en de Jean, justement, il est le seul évangéliste a indiqué que la charge de la préparation du corps, souvenez-vous, elle n'incombe pas aux femmes. D'habitude, c'était les femmes qui apportaient les aromates et qui embaumaient le corps. Eh bien là, cette fonction-là, cette charge-là, elle incombe aux hommes. Elle incombe à Nicodème, je crois. Hein. C'est le texte de Jean 19, 39, 40, enfin, versets 39 à 40. Nicodème vint aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec des aromates, suivant la manière juive d'ensevelir. Vous voyez, Jean, chez Jean, ce ne sont pas les femmes qui soignent le corps, contrairement à Luc ou contrairement à Marc. En revanche, le premier jour de la semaine, à l'aube, chez Jean, en Jean en chapitre 20, eh bien c'est bien Marie de Magdala qui découvre la première, qui découvre en premier la pierre roulée. Et c'est elle donc qui s'en ira dire à Pierre et à Jean eh bien, ce qu'elles ont découvert et ce qu'on leur a dit. En ce qui concerne le récit de Matthieu, c'est un petit peu différent parce que là, si les femmes se rendent au tombeau le lendemain, eh bien, la question des aromates, elle n'est pas posée du tout. C'est-à-dire que le fait qu'elles annoncent les premières la résurrection aux disciples, eh bien, en fait, elles l'annoncent malgré leur crainte. Alors, en parlant de la crainte, il y a quand même l'évangile de Marc. Vous savez, l'évangile de Marc, c'est l'évangile le plus court. Il y a 16 chapitres. Eh bien, l'évangile de Marc, il se termine sur la frayeur des femmes. Mais on y viendra peut-être un petit peu plus tard. Peut-être revenir sur la question du témoignage. Parce que j'ai noté que si l'annonce du tombeau vide par les femmes est bien une annonce qu'on doit recevoir comme telle de la résurrection, elle n'est donc pas de l'ordre d'un témoignage, mais d'un message. Et on parle assez volontiers du message des femmes, et non pas du témoignage des femmes. Où Marie de Magdala vint annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit ». Matthieu, lui, va confirmer dans son récit justement la fonction des messagères, qui sont des femmes. Et dans son récit, c'est d'abord l'ange du Seigneur qui leur ordonne d'aller annoncer que Jésus est ressuscité. Donc c'est d'abord l'ange du Seigneur, et ensuite ce n'est qu'après que c'est Jésus-Christ qui dit « Allez vers mes frères ». Voilà, aller annoncer à ses frères qu'ils le verront en Galilée. Donc vous voyez, ça se fait en deux temps pour les femmes. Je vais vous lire le texte 3, Matthieu 28, 1, 10. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité. » Comme il l'avait dit, venez voir l'endroit où il gisait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Quittant vite le tombeau avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples, et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, je vous salue. Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Vous voyez, une annonce en deux temps. Ce sont des messagères. D'abord, de l'ange, puis de Jésus lui-même. Donc l'apparition du Christ ressuscité devant les femmes pourrait sembler vouloir confirmer le message de l'ange, puisqu'il vient après. On se dit, ben, est-ce que c'est utilitaire ? Ça vient confirmer le message de l'ange. En fait, le Christ révèle par son apparition et ses paroles la réalité des paroles de l'ange. En fait, il vient lui-même confirmer par sa parole et sa présence comme vivant qu'effectivement, la résurrection a bien eu lieu. Il est là, vivant, devant les femmes. Donc, pour Marie de Magdala, ce qui paraît déterminant et qui assure la portée théologique de la résurrection, eh bien, ce n'est pas l'apparition en elle-même, mais c'est d'abord le fait qu'elle reconnaisse Jésus ressuscité et qu'elle le reconnaisse, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'appel de son nom. Voilà. C'est quand Jésus l'appelle Marie qu'elle le reconnaît, où elle dit « Rabouni ». Et donc, cette reconnaissance mutuelle, on pourrait dire, eh bien, donne aux femmes la place que le Christ veut pour elles. Il les reconnaît dans leur identité, comme femmes, dans leur identité, et pas simplement comme femmes venant le matin de Pâques pour apporter des aromates. Et donc, il leur donne une place, mais cette place-là n'est pas la place qui incombe aux apôtres. Ce n'est pas la même place.
Pardon, alors, quel est le, pourquoi est-ce que...
La primauté de l'apparition du ressuscité, ben justement, ça va être celle de la foi, et ça rejoint vos questions. C'est la foi. Comment leur foi est, pour ainsi dire, remise en chemin par tous ces paliers de reconnaissance du Christ par lui-même. Et c'est donc le verset 8 du chapitre Jean. Il vit et il crut, alors qu'en fait, Jean ne voit rien. Il ne voit rien et c'est sur ce rien qu'il croit, précisément. Donc si on revient à la question de la preuve, au tombeau vide, et que l'on dit, et on l'a dit, ça ne constitue pas une preuve. Alors on pourrait se dire, bah alors finalement, quelle est la fonction du tombeau vide. Le tombeau vide dans lequel Jésus est, le tombeau dans lequel il a été enseveli, représente aussi le terme de sa mission. Sa mission prend fin ici, au tombeau. Pas simplement à la croix, au tombeau, dès l'instant où on est enseveli, ça y est. C'est le terme de sa mission et aussi c'est le terme de sa vie terrestre. Mais au matin de Pâques, bah, quand le tombeau est ouvert, ben, le tombeau ouvert ne représente plus le terme, il représente le commencement. Ce tombeau ouvert ne représente plus la mort. C'est le tombeau fermé qui représente la mort. Le tombeau est ouvert, il est vide. Voilà un commencement, quelque chose de nouveau commence. Et ce qui commence, cette nouveauté, c'est le Christ lui-même ressuscité qui est le commencement. Parce que le tombeau, une fois qu'il est ouvert, n'a plus rien de commun avec les autres tombeaux. Il est différent, il n'a plus rien de commun. Et s'il n'a plus rien de commun, c'est qu'il n'a même plus rien de commun avec la mort. Et comme le Christ est vivant et qu'il se montre vivant, alors ce tombeau-là, il est le signe de la résurrection du Christ. Pas la preuve, mais le signe. Le signe que la mort n'est plus, que la mort, elle est anéantie. Et donc, il devient le commencement de quelque chose de nouveau, d'une présence nouvelle. Alors, voyez, par rapport à vos questions, le fait de ne pas reconnaître Jésus ressuscité, ben, si cette présence est nouvelle et que le Christ est nouveau, en raison même de sa résurrection par le Père, alors... Et on rajoute sur le fait que la non-foi dans laquelle se trouvaient les disciples parce qu'ils avaient peur et les femmes également, bah fait qu'on ne le reconnaît pas et que naturellement on ne peut pas le reconnaître. Et donc ce tombeau ouvert devient le signe d'une vie inconnue, quelque chose que personne ne connaît. Donc la fonction du tombeau vide est d'opérer un choc parmi ceux et celles qui sont sûrs d'y trouver le corps. Les femmes, quand elles arrivent au matin de Pâques avec leurs aromates, elles sont certaines d'y trouver le corps de Jésus, elles n'ont aucun doute là-dessus. Voilà que le corps a disparu. Mais si le tombeau vide ne constitue pas une preuve en soi, l'absence du corps de Jésus n'en est pas une non plus. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas le corps que c'est une preuve. Parce que l'absence du corps de Jésus va poser aux femmes une énigme. C'est quand même une sacrée énigme qui se met face à elles. Mais cette énigme-là ne leur permet pas d'imaginer la résurrection. Vous voyez, tout au début, on parlait de palier de reconnaissance. Mais elles voient le tombeau ouvert, elles rentrent, elles voient que le corps a disparu. Elles se disent pas « Ah ben, Jésus est ressuscité, il n'y a plus de corps, donc c'est que Jésus est ressuscité ». Non, la première chose qu'elle demande, c'est « Est-ce que c'est toi qui l'as pris ?» quand elle s'adresse au jardinier. Donc tout ça suscite de la peur et de la frayeur. Et c'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure de la finale de Marc, parce que la finale de Marc, ça se terminait par la frayeur des femmes. Et c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas laisser un évangile se terminer sur la frayeur des femmes, c'est-à-dire sur le définitif de la mort que constituait le tombeau. Ça ne pouvait pas se... La peur de la mort, la frayeur, d'un seul coup l'évangile se termine là-dessus. Alors voilà, on va regarder ce qu'en disent les évangélistes. Alors chez Luc, les femmes, elles ont le regard baissé. Et c'est le regard baissé qui va provoquer la réaction des anges. Donc on peut lire, saisies de crainte, elles baissaient le visage vers la terre quand ils leur dirent, donc les anges leur dirent, mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Elles regardent la terre, donc là où on a enterré. Et ils disent, il n'est pas ici, il est ressuscité. Donc là, on est face à une première annonce kérigmatique, il n'est pas ici, il est ressuscité. Et en parallèle de cela, en parallèle de la vie des femmes qui regardent la terre, donc qui regardent la mort, eh bien on a une autre vision, c'est celle des apôtres au moment de l'ascension. L'ascension met les disciples face à une situation, aussi une situation énigmatique. Parce que lorsque Jésus est emporté au ciel vers le retour vers le Père, là les apôtres regardent vers le ciel. Fixés au ciel, ils ont le regard fixé au ciel après que dans la nuée Jésus fut enlevé et soustrait à leur regard. Vous voyez bien les deux opposés. Voilà ce que nous dit Acte 1, versets 9 à 11. À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leur regard. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvaient à leur côté et leur dirent « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Vous voyez, aux femmes, l'annonce de la résurrection, mais elles sont dans l'incapacité de croire, elles regardent vers la mort, aux apôtres et aux disciples de regarder vers le ciel. Donc c'est en raison de la reconnaissance de celui qui était mort et qui se présente au matin de Pâques comme vivant que le tombeau vide ne peut pas constituer une preuve, mais le signe, encore une fois, que quelque chose s'est produit. Le fait, et ce qui s'est produit, c'est le ressuscité qui se montre de lui-même. Vous voyez bien, le « de lui-même », il est très important. Non seulement il se montre de lui-même, mais il se montre de lui-même parce qu'il veut être reconnu. Il reconnaît Marie et Marie le reconnaît. Il y a un aller-retour dans la reconnaissance. Il ne veut pas simplement qu'on le reconnaisse, mais il reconnaît aussi ceux avec qui il a vécu. Alors voyons un petit peu la question des apparitions. Alors, je peux vous dire, grand 2, parce que je ne sais pas ce que vous avez. Peu importe, on va dire.
Grand
Le titre, c'est Apparition du ressuscité. Donc le Christ apparaît pour être reconnu, mais pas tout de suite. C'est-à-dire pas immédiatement. Et comme je vous le disais, cette reconnaissance, elle se fait par degrés, par paliers. Et on pourrait rajouter, maintenant, par médiation. La médiation du jardinier, la médiation des femmes, de deux hommes. Donc le ressuscité qui n'est pas reconnu, s'adresse à Marie avant d'être appelé lui-même par son titre, par Rabouni. Donc, ces apparitions et cette reconnaissance mutuelle, elle a une fonction, c'est de mettre en œuvre la mémoire. La mémoire, elle est primordiale ici. Elle est primordiale parce que les femmes, Marie-Madeleine qui est reconnue par Jésus parce qu'il l'appelle par son prénom, lui permet de se souvenir que Jésus l'appelait par son prénom. D'un seul coup, c'est comme une révélation pour elle aussi, c'est-à-dire qu'il y a un dévoilement total et donc cette reconnaissance-là met en œuvre sa mémoire. Donc les paroles de Jésus et du ressuscité agissent sur la mémoire des femmes, mais aussi des disciples, où il leur dit, dans Luc 24, chapitre 24, verset 7, il dit « Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » La mémoire est remise en route. C'est parce que la mémoire est remise en route qu'ils peuvent faire la relecture de tout l'événement. De sorte que l'apparition de Jésus va pouvoir les préparer à la confession de foi. S'ils ne se souviennent pas, ils ne peuvent pas confesser leur foi.
Oui, je comprends. Il y a la mémoire, mais ça va avec, je pense. Mais il y a aussi l'idée de continuité, quelque part, peut-être, la continuité que le Jésus qui apparaît ressuscité, c'est le même aussi, quelque part, que celui que les apôtres ont connu. Et que voilà, c'est pas un Jésus déconnecté d'avant sa mort.
Oui, c'est le même, et vous avez raison, c'est le même, parce que c'est toujours le Fils de Dieu. Il n'est pas la mission confiée par le Père et qu'il va confier aux mains des apôtres n'est pas une autre mission que celle du salut des hommes. Donc il est le même foncièrement, il est le même. La question de la reconnaissance alors qu'il est le même, elle ne joue pas sur le fait de l'apparence, elle joue sur le fait de l'incapacité de reconnaître Jésus de la part des femmes ou de la part des disciples. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, la question de l'apparence, elle ne doit pas jouer dans la nature même de ce qu'est Jésus. C'est-à-dire qu'il n'est pas moins Dieu et moins homme. Ça ne remet pas en cause sa double nature. Le fait de ne pas le reconnaître, ce n'est pas, on pourrait dire, de son fait. C'est du fait que, d'abord, ça veut dire que peut-être que les disciples, ils n'ont pas bien entendu les trois annonces de la mort et de la résurrection. Que nous, souvenez-vous, quand Pierre refuse cette annonce de la mort de Jésus, Jésus lui dit « arrière Satan ». Donc ça veut dire que ils ont refusé cela. Mais en refusant cela, ça veut dire qu'ils refusaient aussi la mission que le Fils avait à mener. Si la mission que le Fils a menée l'amène à la croix, ça l'amène à la croix. Et ça, Pierre, il devait l'accepter. Parce que ce que Pierre n'a pas entendu, c'est qu'il y avait la résurrection. Le Fils de l'homme doit mourir, souffrir et mourir, mais trois jours après, il ressuscitera. Pierre n'avait entendu que la mort.
Il n'a pas
compris.
C'est ça. Il pouvait pouvait pas se projeter, excuse-moi, c'est le moment aussi.
Mais, alors, du coup, l'apparition de Jésus et cette reconnaissance mutuelle, elle a une fonction qui est celle de la confession de foi. Une fois qu'ils ont reconnu que c'était bien Jésus, celui avec qui ils ont vécu, qui a bien été crucifié, ils sont témoins de sa résurrection, ils peuvent annoncer sa résurrection, ben, là, rien n'empêche à leur foi de renaître. Et c'est la foi, et même on pourrait dire que cette foi-là n'est pas la même foi pour eux que la foi qu'ils avaient avant en Jésus-Christ. Parce que les attentes qu'ils avaient de ce Jésus de Nazareth avant sa crucifixion ne sont plus les mêmes attentes après. Ça n'a plus du tout le même... voilà, ça a changé totalement, c'est un renversement pour eux. Le salut dont il est question n'est plus celui... la représentation du salut qu'ils avaient avant. Ils sont passés de la représentation au salut promis qui s'accomplit en la personne de Jésus-Christ. Et pour ça, ils sont prêts à mourir pour ça. Et d'ailleurs, ils sont morts pour ça. Donc la confession de foi, elle se fonde pour eux à travers ce cheminement, cette mise en œuvre progressive, de manière à ce qu'ils comprennent, à ce qu'ils se souviennent, la mise en route de la mémoire. Sans mémoire, ils ne peuvent pas faire de relecture de l'événement. Donc les apparitions du ressuscité et la reconnaissance réciproque, eh bien, attestent la résurrection. C'est-à-dire que les attentes de la manifestation de la gloire de Dieu en son Fils, eh bien, prend son évidence dans l'amour qui est déployé dans la résurrection. C'est-à-dire que pour le dire autrement, la manifestation de Dieu, du Dieu amour, est révélée en raison même de la résurrection du Fils. L'action d'amour du Père pour le Fils, en faveur du Fils, mais qui n'est pas en faveur uniquement du Fils, qui est aussi en vue du salut des hommes. Et c'est ça que les disciples ont compris après. Et c'est en raison de cette compréhension, de cette révélation peut-être même pour eux, qu'ils ont été capables de mener à bien la mission que Jésus leur a. Et ils ont compris ce qu'était la mission, peut-être même la mission de Jésus. Ils l'ont compris là, à ce moment-là. Et eux-mêmes n'ont pas eu peur de mourir. Et peut-être même certains, quand ils étaient flagellés, voyaient un avantage à être flagellés au nom du Christ. Et ils en tiraient même une joie et une allégresse, parce que c'était pour le Christ qu'ils souffraient. Donc, vous voyez, il y a la différence entre les apôtres qui sont enfermés au Cénacle, et d'un seul coup, c'est un autre monde qui s'ouvre à eux. Et ce monde-là, ils veulent l'ouvrir aux autres. Donc les premières communautés se forment, elles se regroupent, elles partagent le pain, elles sont unies autour de la parole de Dieu, enfin autour de la parole, soit des lettres pauliniennes, soit des évangiles quand ils ont été écrits. Ils prient ensemble. Eh bien, tout cela fonde l'Église. Et le fait que l'assemblée, l'ecclésia, qui en grec signifie le rassemblement ou la convocation, ce qui est moins bien la convocation, mais il y a cette idée-là, le fait de rassemblement, le rassemblement, le partage du pain, la communauté fraternelle, la prière, ben c'est un schéma liturgique. On a ça aussi à la messe. L'accueil, le partage de la parole et du pain, la prière commune, le partage fraternel, c'est la communauté église dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc le Christ ressuscité se rend d'abord visible, et on voit bien, il ne se rend pas visible à n'importe qui. Il se rend visible d'abord à ceux qu'il aime. On pourrait presque dire, de la même façon que le Père ressuscite le Fils par amour, Jésus se montre d'abord à ceux qu'il aime. Les femmes, les disciples, les apôtres, les pèlerins d'Emmaüs, il ne va pas se montrer aux foules en premier. Comment ? Donc, vous parlez un petit peu de la disparition, parce que face à l'apparition, il y a cette autre catégorie qui est la disparition, et dont on parle peu finalement, parce qu'on parle beaucoup des apparitions du Christ. Et on ne parle pas, on ne dit pas, et on tait le fait qu'il disparaît aussi. Donc je voulais juste vous introduire un petit peu à ce moment-là, c'est-à-dire le moment où Jésus se sépare des siens. Parce que cette disparition, eh bien, elle fait partie, et pleinement partie, des modalités d'amour. Jésus apparaît auprès des siens parce qu'il les aime, mais la disparition, elle fait aussi partie de cette modalité d'amour. Pourquoi ? Eh bien, parce que si Jésus ne disparaît pas, le paraclet ne pourra pas venir. Le don de l'Esprit... Si on retient Jésus totalement, comme on en était tout à l'heure sur cette discussion, si on retient Jésus, il ne peut pas envoyer son esprit à la Pentecôte. Vous voyez ?
Mais en même temps, c'est difficile à comprendre puisque il disparaît, mais pas vraiment, puisque quelque part on l'a.
Oui, mais vous voyez bien, c'est là où on doit essayer de comprendre le terme de disparition, et vous avez raison. La disparition, c'est ambigu, mais comme l'apparition, c'est ambigu aussi. Parce qu'on l'a vu, c'est une apparition fantasmagorique. Il y a quelque chose d'ambigu dans ce de dire la disparition. Parce que la disparition, ce n'est pas un disparaître. Voyez ? C'est partir, revenir vers le Père, pour reprendre dans l'évangile de Jean, le retour vers le Père, retourner. Si je ne retourne pas vers le Père, le paraclet ne viendra pas à vous. C'est retourner vers le Père pour pouvoir mieux recevoir l'Esprit du Père. Mais ce retour, c'est aussi un retour par amour. Ce n'est pas un retour nécessaire, ce n'est pas un retour accidentel. Il n'y a pas de nécessité en Dieu. Donc, ce n'est pas un disparaître, bien que les fantômes n'existent pas, mais vous voyez bien, il apparaît, il disparaît, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas quelque chose qui vient jouer sur la vision ou les sens des personnes témoins. Mais de la même façon qu'il ne peut pas y avoir de résurrection sans la mort préalable de Jésus, il n'y a pas de moment où Jésus disparaît sans qu'il y ait au préalablement le moment où il est apparu auprès de ses disciples. L'apparition et la disparition ensemble, encore une fois, elles sont à comprendre comme la mise en œuvre de la liberté de Jésus, qui lui appartient en propre. Il n'est pas le pantin du Père. Il décide du moment où il est vu et du moment où il n'est plus vu. Et il est toujours là. Il est toujours là. Et même s'il n'est plus avec nous, nous le recevons par les sacrements. L'Évangile nous dit « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La présence est une présence définitive sous un autre mode que celui de la présence, apparition, disparition. L'apparition et la disparition, ou même l'apparition comme la disparition, représentent ce que le Père, par le Fils ressuscité, met à la disposition des hommes pour se révéler et se rendre visible et rendre visible la puissance de l'Esprit. Vous voyez, si on dit que l'apparition et la disparition du ressuscité sont des modes ou sont des modes d'expression de la présence de Jésus, sont des modes d'expression de la présence du ressuscité, il se montre ou il ne se montre plus. ce sont des modes d'expression. Eh bien, ces modes d'expression, on doit les considérer aussi comme des modes de manifestation de Dieu lui-même. Oui. Vous voyez ? C'est pas juste apparition, disparition. Ce sont des modes de manifestation de Dieu lui-même, par lui-même, en la personne du Christ ressuscité. Ou alors on enlève la personne, encore, mais en Christ ressuscité.
Pourquoi il n'y en a plus aujourd'hui ?
Bon, ben vaut mieux pas.